Le balado que tu t'apprêtes à écouter, tu peux pas l'entendre ailleurs. C'est une exclusivité.
88.3, c'est fac.
Ça part ici.
Très très bon. Il y aura quelques scènes tournées dans mon salon sans prétention.
Bonjour à tous et à toutes, bienvenue à ce nouvel épisode de Ciné Histoire ce vendredi 27 septembre. J'espère que vous allez bien et que vous êtes aussi crinqués que moi à l'idée de la sortie de Megalopolis de Francis Ford Coppola qui prend l'affiche aujourd'hui un peu partout en Amérique du Nord avec une certaine forme d'être mal aimé, si on veut, là, avec tous les déboires que la production a connus, mais pré-production, en fait, a connu, et même la post-production. Bref, c'est ça. C'est finalement aujourd'hui que prend l'affiche le nouveau film de Francis Ford Coppola. On va pas nécessairement parler aujourd'hui, ou peut-être je vais faire un petit topo sur cette pré-production un peu houleuse, et puis garder mes commentaires du film pour une émission spéciale que je vais annoncer la semaine prochaine, mais bref, c'est ça, ça prend l'affiche aujourd'hui. À l'émission, mais ce que je vous ai prévu plus tôt, ça va être une émission peut-être un peu plus courte qu'à l'habitude. Je vous ai prévu notamment la critique et une entrevue réalisée par Maryse Legagnard, qui est la réalisatrice du film Le Dernier Repas, qui prend l'affiche aujourd'hui à la Maison du cinéma. Et le film a gagné justement les plus gros honneurs au Festival de cinéma de la ville de Québec. Donc, j'ai pu m'entretenir pendant une quinzaine de minutes avec la réalisatrice. Et donc, c'est ce qu'on va vous faire jouer vers 12h15. Sinon, un petit topo peut-être des nouveautés et quelques critiques un peu spontanées. De films de cette année, mais que je n'ai pas vraiment abordé, soit parce que j'étais en congé, ou soit parce que j'ai pas pu les voir au cinéma et que maintenant, ils sont disponibles sur des plateformes de streaming. Donc, j'ai notamment en tête The Fall Guy et Inside Out 2. Si j'ai le temps aussi, je vous ferai peut-être des petits topos là, un peu random là, de films. Là. Je suis en train de repasser à travers ma collection de films pour voir lesquels je peux me débarrasser et tout. Donc, j'écoute un mélange de bons et de mauvais films. Donc, ce sera peut-être un peu de critique fourre-tout pour cette édition. Mais c'est ça, donc une édition un petit peu plus courte qu'à l'habitude. Je vais commencer peut-être avec les nouveautés de la semaine. Commençons avec les nouveautés justement qui prennent l'affiche à la Maison du cinéma. Il y en a trois, là. Megalopolis, comme j'ai mentionné. Je vais y revenir un peu plus tard. The Wild Robot également, donc un nouveau film d'animation de DreamWorks, DreamWorks Animation, un nouveau film d'animation de Chris Sanders, à qui on doit notamment là, les Croods, Bolt en fait en anglais, How to Train Your Dragon, bref, un habitué du cinéma d'animation qui revient avec ce nouveau projet-là, qui met en vedette notamment les voix de Lupita Nyong'o, Pedro Pascal, Kit Connor, Bill Nighy. Le film a quand même des bonnes critiques, a le potentiel de scorer quand même relativement fort au box-office, là, moyennement que Megalopolis, comme je l'attends, n'attirera pas les foules. Bref, The Wild Robot, ça suit en fait le robot Rozum 7134 qui, à la suite d'une tempête, s'échoue sur le rivage d'une île sauvage. Conçu pour accomplir diverses tâches destinées à aider les humains, cet automate se met rapidement à la recherche d'une mission. Sur son chemin, elle ne rencontre que des animaux de la forêt qui prennent la fuite ou font le mort dès qu'ils l'aperçoivent. Les rôles sont cependant inversés lorsque Rose interrompt par mégarde la sieste d'un grizzly. Dans sa course à travers les bois, elle provoque la destruction d'un nid d'oie, laissant un seul œuf intact. Lorsque l'œuf éclos pour donner naissance à un oisillon, le petit volatile vient naturellement se blottir contre Rose comme s'il s'agissait de sa mère. Contre toute attente, c'est un renard qui guidera Rose dans ses nouvelles responsabilités parentales. Donc, un petit feel-good film d'animation. Une animation qui ne plaira peut-être pas tout le monde, mais qui est quand même assez stylée, là, je crois, si jamais vous avez vu la bande-annonce. Les critiques sont somme toute assez positives aussi. Donc, ça risque d'être une très bonne sortie familiale, je crois. Un film qui a le potentiel de rester quand même un petit moment à l'affiche. Donc, vous pourrez le voir peut-être en famille ce week-end ou les prochains week-ends également. Sinon, il y a un nouveau film aussi, une nouvelle comédie dramatique qui prend l'affiche. Un autre exemple peut-être de mauvaise traduction, mais il s'appelle en français « Mon vieux cul » ou en anglais « My old ass ». C'est une traduction assez littérale, là, mais on dirait que, je sais pas, en français, ça choque plus qu'en anglais. Ça m'en va d'être Aubrey Plaza, qui est également d'ailleurs à l'affiche dans Megalopolis. Ça suit également Maddie Ziegler. C'est un film de Megan Park là, qui avait été réalisatrice de Fallout, qui avait été, je crois que c'est sa seule, son deuxième film en fait en tant que réalisatrice. Elle a été actrice aussi dans Room notamment. Voilà. Ça suit en fait l'histoire de Elliot qui a 18 ans, qui souhaite quitter la maison familiale située dans une ferme agricole canadienne de Canberra pour aller étudier à Toronto. L'appel de la grande ville se fait de plus en plus pressant et Elliot doit dire au revoir à ses deux meilleurs amis, Ro et Ruth. Un soir d'été, les trois jeunes femmes montent à bord d'un canot pour aller faire du camping sur une île inhabitée avoisinante. Sous l'effet d'une concoction composée de champignons hallucinogènes, Elliot fait connaissance avec elle-même à l'âge de 39 ans. En pleine conversation avec son double, elle apprend qu'elle doit se méfier d'un garçon nommé Chad. Peu de temps après cet épisode, elle rencontre Chad, un homme venu travailler dans les fermes de son village. Donc, que ce soit comédie romantique, il a été, je ne sais pas s'il a gagné un prix à Sundance, mais il a été du moins là, du festival de films de Sundance. Ça a l'air d'être la comédie, c'est ça, un peu indépendante, feel good du moment, qui fera pas vraiment courir les rues, mais qui va somme toute être de très bonne qualité. Là. Donc, les commentaires, les critiques, ça, sont bien, mais sans plus. Donc, c'est à peu près le genre de film auquel je m'attendrais. Donc, ça prend l'affiche aujourd'hui à la Maison du cinéma. Parlons peut-être tout de suite de Megalopolis, justement, parce que je veux vous faire un petit topo sur la situation houleuse de cette production-là. Pour ceux et celles qui le savaient, c'est le projet tant attendu de Francis Ford Coppola qui revient après 10 ans, même 15 ans depuis son dernier film Twixt. Et puis c'est un projet là, qui porte dans son cœur depuis les années 80 mais qui est incapable de faire financer. Ça parle un peu là, de la, comme une allégorie un peu de la chute de l'Empire romain mise aujourd'hui, donc pour parler un peu de la chute de l'Empire américain d'une certaine façon. Là, on conjure Denis Arcand avec tout ça. Mais bref, c'est on y suit un architecte là, qui découvre un nouvel élément qu'il veut utiliser partout dans la ville, un élément indestructible, et puis il veut repenser la ville de demain et l'améliorer au possible. Et puis le système va se mobiliser un peu contre lui pour l'empêcher de concrétiser ce rêve-là. Donc il y a ça, mais c'est pas dans l'histoire, là, même s'il y a des noms de personnages bizarres puis des références à l'Empire romain qui sont un peu peut-être stretch. C'est pas pour ça que le film fait parler de lui pour les mauvaises raisons. C'est notamment à cause de la réception critique vraiment, vraiment, vraiment polarisante depuis sa projection au Festival de films de Cannes. Les gens détestent le critique du Devoir. François Lévesque a mis 1,5 étoile sur 5, je crois. Le critique Brian Tellerico de RogerEbert.com, il a mis 3 étoiles ou 3,5 étoiles sur 4, ce qui est quand même bon. Très peu de gens, là, on peut regarder son Letterboxd aussi, là, les gens, ça varie beaucoup. Il y a des gens qui mettent aucune étoile, une demi-étoile, puis il y en a qui mettent 5 étoiles. Donc, c'est vraiment très polarisant comme film, ce qui n'est pas une mauvaise chose en soi, mais ce qui en fait peut-être un projet un peu moins vendeur auprès des studios. Puis c'est un peu ça là, qui s'est passé, c'est que aucun studio a voulu financer le projet, donc c'est Francis Ford Coppola qui a mis lui-même 120 millions de son propre argent là-dedans. Par la suite, il a été projeté à Cannes, donc réception mitigée, ça a pris du temps avant d'avoir un distributeur. Finalement, c'est Lionsgate qui a embarqué un peu dans le projet, quasiment plus par reculons. Et puis, après ça, il y a eu d'autres problèmes, notamment une fausse bande, une bande-annonce avec des critiques, des citations, en fait, de critiques sur les grands chefs-d'œuvre de Coppola, donc Le Parrain, Apocalypse Now, Dracula, là, si on peut appeler ça un chef-d'œuvre. Donc, des critiques qui des critiques négatives sur des films qui sont maintenant universellement reconnus comme étant de qualité. Le jour même que c'est sorti, les critiques se sentaient un peu choqués, ont fait un peu de fact-check et ils se sont rendus compte que c'était des fausses citations ou des citations qui n'étaient pas associées aux gens, aux noms là, qui sont mentionnés dans la bande-annonce. Ou sinon, c'était les bonnes personnes, les bonnes auteurs de ces critiques-là, mais pas pour le bon film. Lionsgate n'a eu d'autre choix que de retirer la bande-annonce. Et puis, ça a fait beaucoup jaser du film, évidemment. Francis Ford Coppola a même avoué dans la même semaine, là, comme si c'était pas assez, qu'il avait délibéré casté des acteurs on va dire problématiques dans le but de ne pas être catégorisé comme film woke, en fait. C'est pas le premier vieux qui critique les woke, là, que je mets entre gros guillemets, là, on s'entend. Les acteurs problématiques, c'est notamment, évidemment, Shia LaBeouf, John Voight, là, qui est un pro-Trump quand même assez fervent, Dustin Hoffman qui a eu des allégations un peu contre lui. Bref, c'est ça joue tout un peu contre lui. On dirait qu'on essaie de faire mousser la popularité du film, mais est-ce que ça va se résulter en quelque chose de concret au box-office? J'ai pas l'impression. Je pense que... ma mère ne sait pas que ça sort, ce film-là. Je parle à des gens dans la rue, ils ne sauront pas que ce film-là sort. C'est vraiment... comme une petite bulle de cinéphiles qui suivent attentivement ce projet-là, mais ça, il n'y a aucun attrait envers le grand public. Il n'y a pas vraiment de promotion qui est faite du film, outre qu'avec ces problèmes-là. J'ai l'impression que ça ne rejoindra pas son public, ce qui ne sera pas une surprise ni pour moi, ni pour les cinéphiles, ni même pour Francis Ford Coppola. J'ai l'impression qu'il sent là, qu'il s'en va un peu vers un échec financier. Mais que ça le dérange pas vraiment, tu sais, à son âge. Je pense qu'il est plus là pour laisser un leg de sa carrière plutôt que de faire de l'argent avec ce projet-là. S'il est capable d'en faire, tant mieux, mais j'ai pas l'impression qu'il va en faire beaucoup. Cela dit, ça me permet d'y avoir accès peut-être pour une dernière fois à ce réalisateur-là, que moi, quand même, j'apprécie beaucoup. Je vais faire un dossier spécial dans les prochaines semaines sur sa carrière. Donc, j'aime beaucoup l'audace qu'il investit dans ses projets. Parfois, ça fonctionne, parfois, ça ne fonctionne pas, mais on sent qu'il est là pour faire de l'art, pour faire quelque chose de différent, pour pas tomber dans un moule, dans une recette, ce qui est de plus en plus tentant à cette ère-ci du cinéma. Lui, depuis mettons, le milieu des années 70, il essaie de faire quelque chose de nouveau, puis juste pour ça, je trouve ça louable. Est-ce que ça se traduit dans... en tout cas, est-ce que ça va devenir un mime, ce film-là? Je sais pas. J'ai hâte de le voir pour me faire ma propre opinion, mais c'est sûr qu'il a l'air d'avoir beaucoup de choses bizarres dans ce film-là qui, au final, est-ce que ça vaudra la peine? Ça va être une expérience cinématographique, mais est-ce que ça va être gratifiant comme expérience? Je sais pas. À suivre. Voilà. Et puis sinon, je vais parler vite là, du film Le Dernier Repas de Maryse Le Gagneur qui prend l'affiche aujourd'hui à la Maison du cinéma. Donc, c'est un film qui... suit un père et sa fille, mais qui suit surtout la fille, en fait, donc qui renoue un peu avec son père qui est mourant, atteint d'un cancer de l'estomac, et puis qui se remémore à coups de plats typiquement haïtiens que sa fille lui amène, et qui se remémore un peu là, son passé de militant ou d'ex-prisonnier politique à l'ère de la dictature de Duvalier à Haïti. On suit un peu cette relation père-fille-là qui a été détruite par les conséquences de cet emprisonnement politique-là, mais qui se reconstruit peu à peu alors que le père est mourant. Donc, somme toute assez dur ou assez touchant, mais qui va peut-être amener justement quelques sujets de conversation et qui, c'est pas un sujet qu'on a abordé beaucoup dans notre cinéma québécois, évidemment, là, les retombées de tout ça. Je crois que les gens de la communauté haïtienne vont vraiment apprécier le film parce que c'est ça, ça parle de problèmes générationnels qui sont quand même assez majeurs auprès de cette communauté-là. Et puis, pour nous, pour les Québécois de souche où on a peut-être suivi ce dossier-là d'un peu plus loin, ben ça nous instruit un peu là, sur à quel point c'était inhumain cette dictature-là, ces emprisonnements très, comment dire, arbitraires qui ont été faits. Bref, c'est ça. Donc, comme je vous ai dit, le film a gagné au FCVQ le prix, c'est pas le prix Jean-Marc Vallée, mais bref, c'est le meilleur film du festival. Donc, allez voir ça, Le Dernier Repas. Au retour de la pause, on va entendre justement l'entrevue que j'ai réalisée avec Maryse Legagneur, la réalisatrice. Et après ça, je vous reviens avec d'autres petites critiques de films sortis cette année. Donc, restez des nôtres.
Un jour, je vais faire un film. Je ferai la prise de son. La réalisation. Le montage et la direction faux.
Vous êtes de retour à Ciné Histoire et puis maintenant, ben, j'ai la chance de m'entretenir avec Maryse Legagneur, réalisatrice de Le Dernier Repas, qui prend l'affiche en fait aujourd'hui à la Maison du cinéma. Bonjour Maryse, vous allez bien?
Bonjour, ça va très bien, merci.
D'abord, félicitations pour ce film qui est vraiment très touchant. Film d'ailleurs qui a été primé là, au Festival de cinéma de la ville de Québec la semaine dernière, je crois, ou dans les dernières semaines. D'entrée de jeu, j'aurais envie de vous demander un peu comment est né ce projet-là, parce que j'ai cru comprendre que c'est un projet là, quand même sur lequel vous travaillez depuis plusieurs années déjà.
Oui, effectivement, c'est un projet qui a commencé en 2012. Je me suis intéressée à un lieu qui s'appelle la prison de Fort-Dimanche. Fort-Dimanche qui était en fait vraiment un lieu de torture et d'exaction sous le régime de dictature de Jean-Claude Duvalier. Et j'ai vraiment eu envie de raconter cette histoire-là assez terrible, mais en fait, c'est l'histoire des survivants. Donc, il a fallu que je retrace des gens qui avaient survécu à ce lieu vraiment horrible. Puis, j'ai eu vraiment le grand privilège d'avoir vraiment là accès à la matière brute de leurs souvenirs. Dans certains cas, c'était une histoire dont ils n'avaient pas parlé beaucoup. Et je me suis rendu compte, en livrant leur témoignage, qu'ils avaient beaucoup de difficultés à arrêter d'en parler un. C'est comme si on ouvrait une soupape là et puis un robinet qui pouvait plus se refermer. Donc j'ai vraiment mesuré l'ampleur du lieu et puis j'ai vraiment voulu donc honorer leur mémoire et leur récit en faisant ce film-là. Donc ça s'inscrit vraiment dans un devoir de mémoire.
Et vous qui avez quand même travaillé dans le documentaire avant, qu'est-ce qui vous a fait dire que ce projet-là ou ce devoir de mémoire-là devait passer par la fiction plutôt que le documentaire, justement?
Bien, d'abord, j'ai toujours voulu faire de la fiction. Et puis, le documentaire, c'est une forme cinématographique en elle-même. Puis, des fois, on oublie, mais le documentaire... demande aussi d'être scénarisé par moment, que ce soit par les choix du montage, comment est-ce qu'on va cadrer, placer notre caméra, etc., etc. Donc, c'est pas comme si j'avais jamais scénarisé. J'ai scénarisé pour le documentaire. Donc, maintenant, je comprends le sens de votre question dans la mesure où, quand on est en fiction, on travaille à ce moment-là avec des comédiens, donc on n'est pas dans le monde de la vraie vie, là. Mm-hmm. Alors, je pense que justement, au gré des témoignages que je ramassais, c'était tellement horrible ce dont on me racontait. Puis cette horreur-là, elle côtoyait aussi une grande force, un grand courage, une grande résilience. Puis assez rapidement, il y a comme un fracas d'ombre et de lumière qui se sont rencontrés. Et puis, le scénario est comme un peu apparu à ce moment-là. Puis, c'est clair que dans ce cas-là, la fiction permet par moment, la manière que j'ai mis en scène certaines choses, permet de mieux accepter la dureté de ce lieu-là. Donc, j'aime bien dire qu'on m'a donné... du fil barbelé, puis avec le fil barbelé, j'ai essayé de faire de la dentelle avec. Mmh. Donc, il y a certaines scènes qui sont peut-être un peu difficiles, mais à l'issue de la scène, il y a quand même quelque chose de doux, de lumineux, de poétique, puis de profondément humain. Puis ça, c'est vraiment la scénarisation qui m'a permis de faire ça.
Et la fiction permet peut-être aussi un peu le rapprochement entre ce trauma-là, ou plutôt ces témoignages-là, et la nourriture, qui est une part quand même assez importante du film Le Dernier Repas, c'est même littéralement dans le titre. Comment ça s'est fait un peu cet amalgame-là entre une mémoire, disons, de trauma passé et la nourriture typiquement haïtienne aussi?
Ben, pour les gens qui ne savent pas, oui, je suis cinéaste, mais je suis aussi musicothérapeute. Donc, dans une autre vie, j'ai été musicothérapeute auprès de personnes en fin de vie. Mm-hmm. Et j'accompagnais des gens qui décédaient d'un cancer de l'estomac. Okay. Et c'est assez terrible parce que ces gens-là meurent de faim. Mm-hmm. Puis, ça donne que dans le récit de certains prisonniers, en fait, les ex-prisonniers qui sont sortis vivants de cet endroit-là, plusieurs m'ont parlé de...
Cette m'ont famine-là.
Parlé de la faim, la famine, des tortures par la faim. Puis je trouvais qu'il y avait là quelque chose à installer au scénario parce que... la nourriture permet les souvenirs. Donc, le personnage principal, l'action se déroule à une époque contemporaine, en 2011. Puis, il est en fin de vie, il va mourir de faim. Donc, pour lui, l'odeur des repas le ramène vraiment à des affects très profonds. Quand on accompagne les personnes en fin de vie, on se rend compte que le son, tout ce qui est affectif, tout ce qui passe par les sens devient extrêmement important. Et j'ai décidé d'installer la nourriture comme étant un langage entre Vanessa puis son père, parce que les deux ont été en rupture pendant longtemps. Donc, c'est pas vrai que mes deux personnages allaient commencer à se parler tout d'un coup comme si de rien n'était. Donc, peut-être qu'ils pouvaient pas s'exprimer avec des mots, mais je me suis dit, il va falloir qu'on développe ensemble un autre langage. Puis le langage, c'est celui de la nourriture. Donc, c'est Vanessa qui va apporter des nourritures, des mets haïtiens au chevet de son père mourant. Et c'est ça qui va raviver ses souvenirs du passé. Et grâce à ce langage-là qu'ils vont développer, ça va l'aider à vraiment dévoiler sa vraie histoire. Donc, il va lui relater son passé qu'elle ignorait complètement dans la prison de Fort-Dimanche.
Mm-hmm. C'est vraiment un point de vue très intéressant, puis qui est très touchant aussi dans le rapprochement justement entre la fille et son père. Je voudrais en parler justement de cette dynamique-là familiale entre eux deux. Comment est-ce que vous avez approché ces personnages-là, puis comment est-ce que vous les avez approchés aussi avec les acteurs et les actrices qui les interprètent, Marie-Évelyne Nessard et Gilbert Lomar?
Oui. Moi, j'aime bien dire que ce film-là, c'est un drame culinaire, là, en quelque part, parce que, bon, d'abord, c'est vraiment un drame. Puis oui, la nourriture est vraiment au centre, hein, au centre de l'histoire. Il a fallu que déjà les deux comédiens qui n'avaient jamais joué ensemble, on fasse des pratiques. Donc, on a pratiqué. On a pratiqué, entre autres, beaucoup l'espace, parce que pour ceux qui vont aller voir le film, puis j'espère qu'ils seront nombreux, on voit bien au scénario que plus le récit avance et plus on se rend compte que Vanessa va se rapprocher de son père, autant émotivement que physiquement. Et même dans la manière de partager le repas avec son père, ça va changer. Donc, il a fallu qu'on joue avec cet élément-là de jeu. La nourriture. Comment est-ce qu'on va nourrir Reynold? Même ma sœur Vanessa, dans sa direction de jeu, au début, quand elle commence à apprendre à cuisiner, ses gestes ne sont pas les mêmes que vers la fin du film. Donc, il y avait vraiment quelque chose au niveau de la direction qui impliquait le langage de la nourriture, mais aussi qui allait en dehors de ça, parce que il y avait un beau défi de jeu ici. La chambre d'hôpital devient un huis clos dans lequel Gilbert Lomar, le comédien, son grand défi, c'était de jouer un rôle presque toujours, toujours alité. Mm-hmm. Donc, comment est-ce qu'on joue dans un lit? Ça, c'est vraiment intéressant.
Ouais.
Comment est-ce qu'on investit cet espace-là à l'écran? À ce moment-là, ben, c'est clair que le visage, les expressions de visage deviennent d'autant plus importantes. Donc, son jeu était plus dans quelque chose d'intérieur que dans des gestes, que dans du déplacement, par exemple, dans l'espace. Donc, il y a eu beaucoup un travail au niveau du regard. Puis, c'est la grande force de ce comédien-là, Gilbert Lomar, il a vraiment une gueule. Il y a vraiment quelque chose dans le regard, puis dans tout son faciès qui fait que je pense qu'il rend bien le personnage à l'écran.
Oui, c'est presque deux huis clos. Là. Il y en a un dans la cuisine ou dans ce magasin, cette cantine-là, ce magasin général-là. D'ailleurs, où on retrouve la tante qui est interprétée par Mireille Metellus, qui est très, très bonne. était très charismatique à l'écran, j'ai trouvé. Donc, on explore un peu cette double dynamique familiale-là, donc, puisque c'est elle un peu là, qui a élevé, en quelque sorte, en partie
ouais.
du moins, Vanessa.
Je
serais peut-être curieux, parce que je veux revenir sur quelque chose qu'on a mentionné peut-être un peu plus tôt, sur le fait que c'était pas c'était la dictature de Duvalier, ou bref, les tortures qui ont eu lieu, c'était pas... discours si courant que ça, mais que quand on en parle, les gens s'ouvrent vraiment. Est-ce que c'est un peu l'objectif, dans le fond, de ce film-là, que de faire parler ou de partager, en quelque sorte, une expérience commune? Parce que j'ai l'impression que dans notre cinéma québécois, il n'y a pas eu beaucoup de films qui ont abordé cette thématique-là. Donc, le but, c'est d'une part, peut-être, de faire comprendre à un certain public les horreurs de cette dictature-là, et de l'autre, de créer un espace de discussion sur les traumas vécus, peut-être?
Ben absolument. En fait, c'est tout ça en même temps. Déjà, à la base, l'histoire de ce film-là, c'est une histoire assez universelle parce que ça raconte l'histoire d'un papa et de sa fille qui ont eu une fracture importante, qui ne se sont pas parlé depuis 20 ans. Puis au moment de la fin de vie du père, il y a un rapprochement. Alors ça, c'est quand même une histoire assez universelle.
Ouais.
Maintenant, au-delà de cette histoire-là, pour moi, il y avait clairement la démarche très assumée de dénoncer ce qui s'est passé dans cette prison-là de Fort-Dimanche à cette époque-là. C'est important pour moi que les gens sachent coller une imagerie à ces tortures-là, ce qui explique aussi le côté un peu dur du film. Je voulais pas faire semblant que, je voulais qu'on la voie à l'écran. J'ai tellement été marquée parce que les survivants m'ont dit, je me suis dit, on va pas taire ça. Je crois que ça serait de passer en quelque part à côté de leur grand courage d'avoir vécu à tout ça. Donc, il y a un côté à ce niveau-là qui est, oui, je veux qu'on montre, je veux carrément dénoncer ce qui s'est passé entre ces murs-là. Et puis, oui, il y a aussi le désir de briser le silence par rapport aux séquelles de la dictature. Les séquelles, pour ceux qui l'ont vécu dans ces années-là, mais aussi pour les descendants, parce que les enfants de ces traumatisés-là, en quelque part, portent certaines séquelles de leurs parents. Que ce soit par dans le film, c'est quand même assez bien illustré. On voit que Reynolds Célestin est devenu un homme brisé. Puis en étant un homme brisé, il a quand même échoué sa relation avec sa fille. Et ça, c'est une conséquence directe de ces traumatismes sous la dictature de Jean-Claude Duvalier. Et c'est l'histoire de beaucoup, beaucoup de gens d'origine haïtienne qui ont dû fuir cette dictature-là. Puis, briser le silence, ça s'inscrit dans une première démarche de guérison aussi. Si on ne parle pas des choses, si on ne les nomme pas ou si on ne les voit pas, c'est très, très, très difficile d'en guérir. Alors, il y a quand même cette intention-là aussi derrière le film.
On va souhaiter que le film attire un très large public dès sa sortie là, aujourd'hui même, donc à la Maison du cinéma et un peu partout au Québec. Maryse Legagnon, merci beaucoup d'avoir pris le temps de me parler aujourd'hui.
Ça me fait infiniment plaisir. Et puis, aller voir le film en grand nombre, parce qu'au Québec, ce qui fait que les films restent au cinéma, c'est quand il y a des gens qui vont les voir au cinéma. Alors, profitez-en, ça sort à partir d'aujourd'hui, vendredi 27 septembre.
Merci beaucoup.
Merci.
Un jour, je vais faire un film. J'ai déjà écrit le script. Et dans le scénario, il n'y a pas du tout de trajet.
Vous êtes de retour à Ciné Histoire. Maintenant, ben, allons-y peut-être avec des petites critiques en rafale. J'ai fait du rattrapage de films sortis cette année, mais que j'avais pas eu le temps de voir nécessairement. Je vais commencer tout de suite avec peut-être un des meilleurs films de cette année. Un retour aux sources relativement souhaitées de la part du studio d'animation Pixar. Donc, je parle évidemment d'Inside Out 2 qui a pris l'affiche. En fait, qui est rendu maintenant disponible sur Disney+. J'ai regardé le premier parce que ça faisait quand même un petit moment que je l'avais pas vu. Bon, le premier avait gagné l'Oscar du meilleur film d'animation. Il y avait aussi eu un gros buzz à sa sortie parce que c'était vraiment, je veux pas dire nouveau comme concept, mais c'était vraiment bien utilisé comme concept, là, donc d'avoir des personnages qui personnifie essentiellement des émotions qu'une petite fille vit. Puis toute cette quête-là à l'intérieur là, pour retrouver les piliers fondateurs de ce qui fait d'une personne une personne. Donc là, dans ce nouvel opus, on voit des nouvelles émotions apparaître, évidemment. Donc là, je crois que c'est Riley, la petite fille dans le film, qui est rendue maintenant adolescente et puis qui vit avec d'autres émotions, notamment de l'anxiété, la colère était déjà là. De l'envie, voilà. De l'envie, de l'ennui. Bref, c'est ça. Embarrassment, c'est quoi? De la gêne. Bref, c'est ça. Donc, elle vit ces nouvelles émotions-là. Évidemment, c'est ça. C'est probablement le meilleur film de Pixar depuis, depuis Soul, peut-être. Je me souviens plus, mais ils ont eu quelques petits déboires dans les derniers temps. Des films qui soit ne fonctionnaient pas au box-office ou soit qui n'étaient pas de la qualité espérée, disons. Et puis là, c'est un bon retour aux sources, je crois. La proposition est intéressante, quoique assez similaire, j'ai trouvé, au premier film dans sa construction narrative. Donc, c'est encore une fois une quête, là, plutôt que ce soit juste de joie et de tristesse. Mais là, cette quête-là, ça implique les quatre personnages d'origine, donc peur et dégoût et colère, et puis tristesse vit sa propre quête de son bas aussi. Bref, là maintenant, on parle d'estime de soi, on parle de mémoire ou de moments marquants qui forment justement cette estime de soi-là. Et puis là, quand l'anxiété arrive, elle détruit un peu cette estime de soi-là. Donc c'est la quête en fait des émotions d'origine pour retrouver l'estime de soi et la redonner à Riley. J'ai donné un petit coup sur mon micro. J'ai trouvé la construction un petit peu trop similaire, puis peut-être que globalement, on amène un peu moins de nouveaux concepts ou de concepts un petit peu qui mind-blowing, ce que je trouvais que le premier faisait beaucoup. Bon, le train of thought, et il y avait justement toute la lore qu'on réussit à créer sur comment est-ce que on gère des souvenirs, puis comment est-ce que ça en va dans la mémoire à court terme, à long terme, est-ce que c'est des émotions ou des moments pionniers qui font de nous un être humain. Donc, il y a un petit peu moins de ces nouveaux concepts-là qui sont ajoutés là-dedans. Bon, il crée la falaise du sarcasme. Pourquoi pas? Il y a le courant de pensée aussi qui ressemble un petit peu finalement au train of thoughts. Il y a un petit peu trop, j'ai trouvé, de similitudes avec le premier pour qu'ils réussissent à le surclasser. Mais cela dit, c'est ça, ça reste toujours un très bon film qui est quand même assez déchirant aussi. Puis tu sais, j'ai l'impression, à qui s'adresse ce film-là? Puis j'ai l'impression que le premier pouvait autant plaire aux plus jeunes qu'aux plus vieux. Là, celui-ci, j'ai l'impression que c'est ceux qui ont grandi peut-être avec le premier, puis qui vivent justement cette adolescence-là qui va qui vont être plus interpellés. Je pense que des enfants, là, à part, évidemment, parce qu'il y a des couleurs, puis il y a des situations fast-paced un peu là, qui attirent l'œil. Sinon, tu sais, je pense qu'au niveau de l'histoire, je sais pas à quel point les enfants vont vraiment apprécier ça. C'est vraiment plus un film pour les adolescents ou pour les parents. Ce qui n'est pas nécessairement une mauvaise chose, mais d'une certaine façon, on se ferme à un public qui est, mettons, le meilleur public, entre guillemets. Là, t'sais, c'est ça, j'irais pas voir ce film-là avec mes enfants de 5, 6, 7 ans, mettons. T'sais, 10 ans et plus, peut-être. Est-ce que les jeunes, les adolescents vont avoir le réflexe d'aller voir ce film-là sans leurs parents? Peut-être aussi. J'en doute. Mais, enfin... Son box-office est quand même assez criant. Là. Je pense que c'est le film qui a fait le plus d'argent cette année, parmi un des meilleurs de tous les temps. Donc, le public a été au rendez-vous quand même, mais j'ai l'impression que c'est ça. Ça n'avait pas le même charme que le premier. Ce qui en fait quand même un très bon film. Puis maintenant qu'il est sur Disney+, ben, si vous êtes abonné à cette plateforme-là, ben, visionnez-le. Vous allez vous faire votre propre opinion, mais... Mais voilà, quoi. Inside Out 2, ben, c'est sur Disney+, et c'est franchement pas mauvais. Sinon, ben, je vais continuer avec un nouveau film, en fait, qui a pris l'affiche sur Amazon Prime. Ça fait quand même quelques jours, quelques semaines là, qu'il est là, mais c'est le film The Fall Guy qui était pas mal le... Mais qui n'était pas le blockbuster escompté finalement, mais qui a quand même été assez populaire. C'est le nouveau film de David Leitch qu'on connaît pour notamment Bullet Train récemment. Il avait fait aussi Deadpool 2, je crois. Atomic Blonde. C'est un ancien cascadeur en fait d'Hollywood. Puis là, ben, c'est un film sur les cascades à Hollywood. Donc, il parle d'un sujet qu'il connaît très bien. On y suit là, un cascadeur donc qui est Colt Seavers, qui est joué par Ryan Gosling, qui a une amourette un peu... avec Jodie Moreno, qui au début du film ben, est comme une assistante réalisatrice, mais qu'on retrouve un peu plus tard, et qui est maintenant à la barre d'un gros projet de science-fiction. Et puis, les deux, en fait, ben, surtout Colt, il va être un peu mandaté par la force des choses d'essayer de retrouver... Tom Ryder, qui est joué par Aaron Taylor Johnson, qui est l'acteur principal, qui est essentiellement l'acteur pour qui Colt fait des doublures. Puis là, il y a toute une histoire criminelle derrière tout ça. Le film se passe en Australie aussi, en grande partie. C'est ça. C'est essentiellement un mélange d'un film d'action, d'un film criminel, puis d'une comédie. Même une comédie romantique, si on veut. C'est beaucoup de choses à la fois. Et puis, j'ai l'impression que... j'avais un peu le même feeling que quand je regardais Bullet Train, justement. C'est un film avec une prémisse vraiment intéressante, mais qui n'est peut-être pas utilisé soit à son plein potentiel ou qui est un peu maladroite dans son exécution. N'est pas John Wick qui veut. Je crois que John Wick a comme seté un peu le précédent en termes de cinéma d'action réaliste, authentique, avec des vrais chorégraphie, là, c'est pas des vrais combats, mais des vraies chorégraphies impressionnantes et tout. J'ai l'impression que tant Bullet Train que ce film-là essaie d'atteindre ce niveau-là sans vraiment y réussir, ben, l'atteindre. Et puis, il y a aussi beaucoup d'éléments qui m'ont un peu agacé dans la, on va dire, la construction. Pas la construction, mais tu sais, des éléments là, qui est très... qui faisait très quétaine, je vais le dire, là, à mon sens. Il y a beaucoup de musique là, qui est comme une espèce de rip-off d'une chanson de Kiss. Là, je me souviens plus c'est laquelle. I was made for loving you, je crois. C'est ça, il y a beaucoup de jokes que je trouve qui ne lendent pas. L'interprétation n'est pas mauvaise nécessairement, mais c'est ça, tous les personnages sont un peu caricaturaux, puis c'est joué très très gros, ce qui vient moins me plaire personnellement. Cela dit, je crois qu'il y a un public pour ce genre de film-là, de comédie d'action. Tu sais, The Nice Guys rentre un petit peu là-dedans, quoi qu'il soit un peu moins à gros développement. Je mettrais même Kiss Kiss Bang Bang là-dedans. Là. Tu sais, c'est ces comédies d'action-là qui sont somme toute efficaces, mais qui, moi, je suis un peu plus détaché, peut-être, par rapport à tout ça. J'avoue que c'est ça, je suis plus quelqu'un qui aime être stimulé cérébralement que visuellement. Il y a des cascades impressionnantes, là. Je sais pas si c'est vrai, mais en tout cas, il y a comme une voiture là, qui fait 8 tonneaux et demi, puis là, ils disent là-dedans que c'est un record Guinness. Est-ce que c'est un vrai record Guinness? Probablement, je sais pas, mais j'ai même pas poussé la réflexion un peu plus loin. Mais c'est ça, tu sais, il y a beaucoup de choses qui... tu sais, j'aime ça les films qui se passent dans l'univers du cinéma. Puis celui-ci, ben, il y a des pointes intéressantes, là, notamment sur pourquoi les cascadeurs. En fait, ça, je pense que c'est peut-être le point le plus intéressant que j'ai trouvé, sur lequel j'ai lu un petit peu, là, justement. C'est il n'y a pas de catégorie aux Oscars pour les cascades, alors que dans d'autres prix prestigieux, ben, il y en a, là, notamment les Screen Actors Guild Awards, puis les BAFTA peut-être, bref, je ne sais plus trop. Puis ça, c'est un combat là, que les cascadeurs mènent depuis quand même longtemps, de se faire reconnaître. Là, puis là, il me semble, je ne suis pas sûr, il faudrait que je revérifie, mais il me semble que ce n'est toujours pas été ajouté ou c'est pas dans les plans de les ajouter. Le point de l'Académie, c'était notamment parce qu'il y a trop de prix, donc ça rallonge la cérémonie, bon, qui est un point assez bof. Mais le deuxième point qui est peut-être plus intéressant, c'est qu'ils ne veulent pas que des cascadeurs ou des équipes de cascade se mettent maintenant à la course aux Oscars, puis essayer de dépasser ou de se dépasser, de se mettre en danger, en fait, dans le but d'impressionner les membres qui vont voter pour les Oscars. Ce qui était le point peut-être un peu plus intéressant, j'ai trouvé, du film. Bon, cela dit, je crois que dans de très rares exceptions, The Fall Guy en est une, là, mais dans de très rares exceptions, les cascadeurs ont vraiment peut-être un input créatif sur le film. Habituellement, c'est plus le scénario ou le réalisateur qui veut quelque chose et puis là, qui engage une équipe de cascade pour réaliser ça. Donc, l'input créatif est peut-être moins là habituellement auprès des cascadeurs. John Wick étant l'exception, Fall Guy étant l'exception, bon, les vieux films de Jackie Chan aussi, tu sais, où là, c'est vraiment mis de l'avant. Donc, je ne sais pas à quel point vraiment les gens se mettraient en danger plus qu'ils ne le font déjà, tout simplement pour gagner un Oscar. Mais bon, la réflexion est quand même assez intéressante. Et puis, bon, on lance des petites flèches pendant le film, justement. Mais outre ça, c'est ça. J'ai trouvé que l'humour fonctionnait moyen. Je trouvais que la romance entre, en fond, c'est Emily Blunt, qui joue la réalisatrice, et Ryan Gosling, justement, le cascadeur. Bon, leur romance était bof un peu. C'est ça. Même les scènes d'action sont rarement vraiment impressionnante. Mais le film est comme arrivé au bon moment, je crois, en salle et au moment où on avait besoin justement d'un feel-good movie. Et ça l'était. J'avoue que c'est ça. Moi, j'ai été un peu plus détaché à le regarder sur Prime. C'était un bon divertissement, mais je vais l'oublier quand même assez rapidement. Donc, c'est dommage, mais c'est comme ça. On peut pas tous les gagner. Sinon, ben ouais, c'est ça, j'ai vu d'autres films, là. Bon, je vais peut-être parler d'un autre film qui n'a pas vraiment rapport, là, qui n'est pas sorti récemment, mais que j'ai en DVD, juste parce que, c'est ça, je l'ai écouté dernièrement, puis j'en entends pas parler beaucoup de ce film-là, mais il vaut la peine qu'on le souligne un peu. C'est American Splendor, un film de 2003, du duo de réalisateurs Shari Springer Berman et Robert Pulcini. C'est le premier... C'est le premier rôle de Paul Giamatti au cinéma, donc où il joue Harvey Picar, pardon, qui est un BDiste un peu alternatif, bien connu aux États-Unis, mais qui ne s'est pas vraiment exporté tant que ça, là, je crois, à l'international. Donc, c'est un film vraiment là, qui prend beaucoup de liberté dans sa forme. Ça allie BD, ça allie comédie dramatique, ça allie même comédie qui brise le quatrième mur. Harvey Picar est dans le film. Il se joue des fois en même temps que Paul Giamatti qui l'interprète. C'est vraiment une forme très particulière. D'ailleurs, le film avait été nommé aux Oscars pour meilleur scénario original. Adapté, là, probablement. Mais bref, c'est ça. C'est vraiment un film qui m'a plu sur beaucoup, beaucoup de points, mais le point le plus déplorable, j'ai trouvé. En fait, on le suit dans sa vie. C'est un petit peu décousu. On passe des années 60, 70, 80. On le suit à travers ses divorces. On le suit à travers son cancer aussi qu'il va avoir. Puis, c'est ça, sa relation avec sa troisième femme, je crois, là, qui est jouée par Hope Davis. Sa troisième femme qui s'appelle Joyce. Bref, c'est ça. Donc, c'est un film un peu... Ça, c'est clairement le film par excellence de Sundance, où d'ailleurs il a gagné le plus grand prix, là, je pense que c'est pas le Audience Award, là, mais le prix du jury, là, bref, à Cannes, à Sundance. Et il a fait son chemin à Cannes, justement, il a fait son chemin jusqu'aux Oscars. Ce que je déplore, puis tu sais, moi c'est ça, je suis un grand fan de Paul Giamatti comme acteur, je crois qu'il est vraiment sous-estimé, puis il réussit toujours à vraiment créer des personnages authentiques et vrais. Le problème avec ça, c'est que le vrai Harvey Peaker qui interprète et qu'on voit littéralement côte à côte, ben, il est vraiment lui aussi assez intéressant comme personnage, très, très, très mesquin, un peu très cynique. Et puis, lorsqu'on met les deux ensemble, ben, on voit que Paul Giamatti fait un bon travail d'interprétation, mais on voit vraiment que Harvey Peaker a un charisme qui est très difficile à simuler, malgré tout le charisme que Paul Giamatti peut avoir. Fait que ça joue un peu contre le film, je trouve, cette construction un peu éclatée-là, parce que là, on voit la vraie personne, puis on voit... Tu sais, j'aurais pris un film avec la vraie personne plutôt qu'avec Paul Giamatti, je crois, parce qu'il est vraiment particulier comme personnage. On le connaît un peu moins, mais c'est ça, il va faire comme des chroniques récurrentes à David Letterman dans les années 90. Il va... se le mettre à dos, d'ailleurs, aussi. C'est ça. C'est vraiment un film particulier. Mais c'est le seul vrai reproche que je ferais au film, parce que le reste, il est quand même assez drôle, même s'il n'est pas excessivement drôle. Mais c'est très sympathique. Un anti-héros vraiment relativement touchant aussi. Fait que, en tout cas, si jamais vous tombez sur ce film-là, il est disponible sur Crave, écoutez-le, pourquoi pas. Il fête ses 21 ans d'existence. C'est surtout un bon point d'entrée, je crois, là, dans ce que Paul Giamatti peut nous offrir en tant qu'acteur. Fait que vous irez voir ça. Donc, c'était mes petits éditoriaux de la journée. Donc, The Fall Guy, c'est un oui, pourquoi pas. Inside Out 2, ben, c'est un oui. The American Splendor aussi, c'est un oui. Allez voir tout ça. On s'en va en pause publicitaire de notre côté. Puis au retour, ben, je termine avec quelques petites nouveautés. Pas nouveautés, mais quelques petits messages d'information d'intérêt public, voilà. Et ce sera tout pour cette émission.
Un jour, je vais faire un film. Il ne sera pas long. Quelques petits moments. Collés les uns aux autres sans arrêt. Sion.
Vous êtes de retour à Ciné Histoire. Je veux faire un petit peu de promo pour un événement pour lequel CEFAC est impliqué. C'est une grande entrevue à la Maison du cinéma qui aura lieu le 18 octobre prochain et qui sera animée par Opération Beurre de Cinoche, là, qui est un podcast de cinéma animé par Julien Bernatchez et Guilla Saint-Cyr. Les gars vont recevoir Guy Jodoin, donc dans un format longue entrevue, rétrospective de carrière, discussion un peu sur le cinéma, sur la télé aussi beaucoup, parce qu'évidemment Guy Jodoin est pas mal né... pas né à la télévision, mais il a beaucoup œuvré quand même, plus qu'au cinéma. C'est ça, ça va être un bel événement. Je crois que, tu sais, on veut vraiment que les gens soient au rendez-vous si on veut que l'événement se répète. Donc, allez voir ça. La Maison du cinéma vient de baisser les prix, justement, parce qu'il y a un nouveau partenaire qui s'est joint à l'événement. Donc, maintenant, c'est le prix d'un billet de cinéma normal, donc 10$, là, il me semble. Allez voir ça si jamais vous ne faites rien vendredi, le 18 octobre. C'est vraiment super. C'est fait qu'on est impliqué. On va faire un peu de promo pour la semaine de la radio aussi, là, qu'on a annoncé un peu plus tôt cette semaine. Je vais essayer de prévoir des événements spéciaux pour Cinéhistoire, peut-être une longue entrevue, bref, je ne sais pas trop encore, mais ça va être un super festival de radio qui aura lieu à l'Université de Sherbrooke du 4 au 8 novembre prochain. On a MC Gilles, on a Yann Thériault, on a Tammy Verge, Safia Nolin, Thierry Larose, Endorphine. On a beaucoup de gens impliqués là-dedans. On a un Radioton, un 24 heures de radio. D'ailleurs, mon ciné-histoire de cette semaine-là, donc du 8 novembre, ben, sera en direct de ce Radioton. Ça va être vraiment très intéressant. C'est ça, c'est pas mal mes deux petites capsules promo. J'aimerais remercier évidemment Maryse Le Gagneur d'avoir pris le temps de me parler aujourd'hui, aller voir son nouveau long métrage, son premier long métrage de fiction, Le Dernier Repas, qui a pris l'affiche à la Maison du cinéma. Sinon, ben, on va se reparler très bientôt de Mégalopolis, vraiment vous donner mes impressions et puis le mettre en perspective un petit peu dans la carrière de Francis Ford Coppola. Et puis, voilà, c'était tout pour cette émission de Cinéhistoire. Portez-vous bien, allez au cinéma ce week-end et on se retrouve la semaine prochaine, même en même poste, pour un autre épisode de Cinéhistoire.